milliers, des millions de répliques, des millions, des milliards de mots clamés, déclamés, murmurés ici au Festival d'Avignon ou ailleurs sur les scènes du monde. Les mots perdus dans la nuit et dans les souvenirs, le théâtre est l'art de l'éphémère, mais il y a aussi les livres qui gardent la mémoire, des mots dits, des mots écrits.
Pascal Paradou.
1200 livres publiés, soit quelques 3000 pièces, le théâtre francophone ne serait pas le même sans les éditions Émile Lanceman. Un nom comme un sésame pour faire passer les mots d'auteur à lecteur, un nom, un engagement et un anniversaire. Cela fait 30 ans qu'Émile Lanceman a créé sa maison d'édition. Bonjour Émile.
Bonjour Pascal.
Avec vous, dès la première rencontre, j'ai l'impression que c'est Émile. On ne peut pas dire monsieur Émile Lanceman. Pourtant, on devrait.
Non, je pense qu'on ne doit pas, mais je laisse à chacun l'appréciation de la manière dont il me tourne. Mais c'est vrai que on me dit souvent que j'ai une certaine forme de bonhomie, elle n'est pas en tout cas fabriquée, elle est comme ça, je pense que je l'ai depuis longtemps.
C'est votre côté belge ? Donc toujours sympa.
Je connais des Belges qui ne sont pas sympathiques du tout, et des Français qui le sont beaucoup. Non, je pense que c'est peut-être mes origines ouvrières. Moi, mon grand-père était mineur, mon père était ouvrier, musicien. On m'a emporté partout sous le bras quand j'étais enfant pour aller voir du spectacle, des concerts et tout ça, amateur bien sûr. Et donc, j'ai toujours baigné dans cette éducation populaire qui m'a sans doute rendu ce que je suis.
Avignon est votre royaume ?
Non. Je dirais que la francophonie est mon royaume. Avignon est un lieu où je suis, je pense, pour la 44e fois. La première en 67, j'avais 20 ans. C'est à la fois le paradis et l'enfer. C'est-à-dire que effectivement, il y a des moments où je m'y sens très très bien, parce que c'est un lieu de rencontre, de spectacle et tout. Et il y a des moments où j'ai l'impression que c'est un rendez-vous un peu surfait. Moi, j'aime aussi beaucoup les festivals de province. Et par exemple, après Avignon, je quitte furtivement avant la fin Avignon, pour me retrouver à Saint-Antoine-l'Abbaye pour un festival qui s'appelle Texte en l'air, où c'est exactement l'inverse. Tout le monde fait tout en même temps. Il y a un spectacle à la fois pendant 5 jours. Et qu'est-ce que ça fait du bien.
Oui, c'est vrai que c'est un peu gigantesque, Avignon. En tout cas, rien que cette année, 12 des pièces que vous avez éditées sont jouées. Et c'est une moyenne, en principe.
Oui, c'est même un peu moins que d'habitude. Alors, j'insiste toujours bien aussi sur le fait que le fabricant du marteau n'est pas responsable de ce qu'on en fait. Donc, ce sont des pièces dont j'ai publié les textes. Certaines sont tout à fait intéressantes, d'autres moins. Ben là, ce sont les aléas de la création.
Alors, on va parler des auteurs de littérature, car c'est quand même cela qui est important. Mais quelques mots sur vous. Vous l'avez évoqué, comment le petit-fils de mineur belge devient éditeur? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que vous aimiez les livres?
Alors, il y a deux questions. Si j'aimais les livres, oui. Si c'était un rêve, absolument pas. Je pense que j'ai mis 3 ans avant d'accepter le fait qu'on dise, tiens, il y a un éditeur dans la salle. Je me retournais comme tout le monde pour voir qui c'était. Si j'avais choisi d'être éditeur, j'aurais choisi la littérature de jeunesse. Je suis instituteur, j'ai toujours baigné dans le mouvement ouvrier, dans les mouvements d'éducation populaire, et donc effectivement, quand je suis devenu instituteur, je voulais pas être n'importe quel instituteur, et il se fait que c'était en 66, 68, mai 68, les Échos en Belgique, je suis très vite attiré en France par la nouvelle littérature de jeunesse, le nouveau théâtre jeune public. Et voilà, donc c'est par là, c'est ma porte d'entrée en fait.
En même temps, il y a l'idée de transmission dans le métier d'instituteur. Et éditeur, c'est un peu ça aussi. C'est transmettre, comment vous définissez ce métier ?
Oui, c'est transmettre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour déverser des matières, on est là pour faire grandir les gens, créer des problèmes, fournir de manière plus ou moins visible les outils pour arriver à résoudre ces problèmes. Et effectivement, je pense que tout ce qui est culturel fait grandir, le livre, le film, la chanson, la musique, et bien sûr le théâtre. Donc cette idée oui, d'éducation est importante, mais dans le sens noble du terme.
Votre premier souvenir de théâtre, Émile Lanceman, en tant que spectateur, hein?
Eh bien, en fait, mon père fréquentait en tant que musicien une maison du peuple. Bon, je devais avoir 3-4 ans. Et donc, il y avait aussi un cercle de théâtre. Et je voyais les amis de mes parents qui étaient habillés différemment. Je me souviens une fois que l'un d'entre eux tue un autre. Alors, le petit gosse de 4 ans qui est là, debout sur sa chaise au fond de la salle, est tout à fait ému, et d'autant plus qu'il revoit les deux mêmes personnes au comptoir en train de boire un verre. Enfin, donc on n'a pas dû mettre longtemps à m'expliquer ce que c'était que la fiction.
Aujourd'hui, 3000 souvenirs comme autant de pièces de théâtre?
Oui.
Publié.
Oui, j'étonne parfois les gens, je ne fais absolument pas le cuistre, mais je peux pratiquement parler de chacune des pièces que j'ai, voilà, la raconter et tout. Oui, c'est parce que c'est de l'artisanat, l'édition théâtrale telle que je la fais.
Et combien d'auteurs?
On n'a jamais vraiment compté, mais je pense qu'on est aujourd'hui à 450 à peu près.
450 auteurs dans De Vive Voix et une chanson avec le Congolais Balodji, L'hiver indien sous le soleil avignonné, un titre à vous convaincre du dérèglement climatique.
Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité au fond de la glace. Moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure.
Fils de la cale, je rêvais de cockpit. On m'a menti, on m'a menti, la tour Eiffel est petite. Afro-esquimo, plus rien ne me déçoit. Promesse à l'aube, devient mensonge le soir. Hiver indien m'a casé sur la banquise. Je campe ici, ne défais pas mes valises. L'exil, un cul-de-sac, une impasse, un sas. Je cherche un plan pour m'évader, pour passer. Où sont les Champs-Élysées? Où sont les Champs-Élysées?
Balodji, demain en concert dans le cadre du festival des Nuits Blanches, pas loin d'ici au Toronnet, ici étant pour nous Avignon, à l'Hôtel d'Europe où nous sommes avec Émile Lanceman pour les 30 ans de sa maison d'édition. Votre premier livre publié, Émile Lanceman, c'était lequel?
Mais c'était Qui a mangé Madame d'Avoine Bergotta de Sonny Labutanzi. Alors c'est toute une histoire parce que au départ la maison, j'ai jamais donc rêvé de créer cette maison, mais c'est dans le cadre de mon changement de statut. J'avais quitté l'enseignement, je dirigeais l'association Théâtre Éducation en Belgique et on se disait mais pourquoi on monte toujours des classiques, pourquoi pas des textes d'aujourd'hui? On s'est rendu compte que ces textes n'existaient pas, et on a lancé dans une communauté française de Belgique où on disait qu'il n'y avait pas d'auteur dramatique, on a lancé un appel. On a eu 97 textes de 93 auteurs de manière très surprenante, et donc de là, je passe les détails, mais de là est né le projet de créer une maison d'édition qui publierait deux fois par an des Belges non connus. Et puis, je me suis
retrouvé... Et vous publiez Un Congolais déjà connu.
Oui, qui était nobelisable. À l'époque, on parlait du prix Nobel, c'est Soyinka qui l'a eu, mais c'était la pleine période. Alors, comment ça s'est fait? Simplement, je fréquentais déjà en tant que journaliste le Festival des Francophonies en Limousin. Je connaissais Sony. Et quand il a appris que je créais une maison d'édition, il est venu me trouver en disant « Je te fais cadeau de la pièce qui est ici ». Je lui ai fait remarquer qu'il n'était pas belge et qu'il n'était pas inconnu. Mais il m'a dit que je n'y connaissais rien. Qu'en réalité, la problématique de l'édition du théâtre était francophone, était partout. Je devais lire Vinaver, m'a-t-il dit, et découvrir ça par moi-même. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'était une problématique importante que l'édition théâtrale. Mais je ne savais pas dans quelle voie je m'engageais, ça c'est clair.
Donc vous êtes devenu un éditeur belge international, par la francophonie.
Oui, disons que ça, j'assume complètement. C'est-à-dire que j'ai commencé par publier ce puis des Belges, des Québécois, des Français, des Suisses, c'est une espèce de chaîne sans fin. Alors après, moi je n'ai pas de collection africaine, par exemple. Je voulais pas recréer de ghetto, ni de nationalité, ni par exemple de public destinataire. Donc j'ai publié des jeunes publics et des vieux publics dans les mêmes collections. Je voulais vraiment mettre en évidence des auteurs, des écritures, et je pense qu'en 30 ans plus tard, on en est encore à cette idée.
Sony Laboutancy, la langue de Sony Laboutancy.
La langue, c'est la poésie qu'il y a derrière ou les idées qu'il y a derrière. C'est pas le dictionnaire, je crois. Hein. Il faut pas être piégé par les dictionnaires, il faut pas être piégé par la syntaxe. Je crois qu'il faut inventer un langage. Or, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la langue française, ça m'intéresse pas, c'est le langage que je peux trouver à l'intérieur de ça pour arriver à communiquer, parce que nous avons parmi tant de problèmes qu'on a, c'est le problème. On a la télé, on a le fax, on a tout ce qu'il faut. Mais en termes de communication, on est nul. Hein? On est peut-être l'époque la plus nulle qui soit en termes de communication. On n'arrive pas à communiquer. On ne crée que des solitudes, des gens seuls, des gens qui écoutent une conversation. Je pense que c'est nous qui donnons vie aux mots. Et il n'y a pas de mot éternel.
Un mot, c'est un cadavre qui aspire à la vie. Pour vous citer.
Tout à fait.
Sony Laboutancy, la langue était chez lui incandescente, Émile Lanzmann.
Absolument. Moi, j'aimais beaucoup sa façon de parler de cette langue. Il disait, moi, cette langue-là, je ne l'ai pas choisie, on me l'a imposée. Et aujourd'hui, on voudrait me demander des comptes sur cette langue. Eh bien, je n'en donnerai pas. Cette langue, je la possède. Comme les auteurs français, je peux la malaxer, je peux créer des néologismes et tout. Et pour moi, la langue est une arme de combat politique, mais aussi culturelle, par rapport notamment à la colonisation.
Sony Laboutancy est mort il y a un peu plus de 20 ans. Vous avez bien évidemment continué à publier des auteurs africains notamment. On parlera peut-être tout à l'heure de Gao Xingyang, le prix Nobel de littérature chinois. Comment, Émile Lanzmann, l'écriture théâtrale a évolué? Alors bien évidemment, on pourrait y en parler des heures, mais en quelques minutes, comment elle a évolué en 30 ans? J'ai le sentiment qu'il y a eu des passages à vide, notamment après la période Sony Laboutancy, et qu'une nouvelle génération réapparaît depuis quelques années.
Oui, c'est assez cyclique, mais je pense qu'une fois qu'un modèle comme Sony qui donne un coup de pied dans la fourmilière est connu, il y a toute une série de fils et de petits-fils de Sony qui naissent. Et donc, malheureusement, il ne suffit pas de malaxer la langue et d'inventer des mots pour avoir le projet de Sony. Donc, voilà, on a eu des imitations sincères de son écriture, mais des imitations qui n'avaient pas ni le souffle, ni la portée de ça. Et puis, il y a des gens comme partout qui ont voulu tuer le père, qui ont essayé de trouver autre chose. Il y a quand même effectivement des ramifications qui se sont faites. On peut dire que le renouveau, ça a été Nyanguna après, sous une autre forme, qui peut être considérée aussi comme un déclencheur. Et entre eux, il y a des vagues, mais il y a quand même une série d'auteurs comme Kulsi Lamko, par exemple, et puis de générations plus tard, Kofi Kwaile, Gustave Akakpo. Donc il y a toujours eu des auteurs, mais peut-être de manière moins spectaculaire. Pas oublier que quand on a commencé à publier Sony puis quelques autres, on était dans un bassin pratiquement inconnu. Il fut un temps où je disais, et ce n'était pas de la fourfanterie, quand je dis non à un auteur, je ne lui dis pas que tu ne seras pas publié chez Lanceman. Je lui ai dit, tu ne seras pas publié. Nous étions les seuls à publier des auteurs de théâtre africain. Et donc, là, bon, on a eu des vagues. Mais je pense aujourd'hui, effectivement, qu'on est en pleine vague montante. On a de nouvelles têtes qui nous appellent, de nouvelles plumes, et qui respectent, mais qui ne se revendiquent plus de personnes, qui sont simplement des auteurs francophones qui veulent s'assumer.
Oui, il y a des auteurs qui nous sont chers aussi à RFI, comme Édouard Elvis Bouma ou Akimba, qui ont eu le prix RFI Théâtre, mais que vous avez aussi publié, et c'est vraiment des jeunes gens d'une nouvelle génération qui cherchent leur propre voix et leur propre écriture.
Bien sûr, et qui vont réussir ce que les précédents n'ont pas réussi, c'est-à-dire à être considérés comme des auteurs francophones de talent et pas des auteurs africains de talent. C'est un combat qu'on mène depuis 30 ans, qu'on les mette dans la littérature et pas dans un secteur géopolitique, et donc je pense que ceux-là réussissent.
Ça veut dire que le passage par Bruxelles ou Paris n'est peut-être plus tout à fait aujourd'hui incontournable pour un auteur de théâtre d'origine africaine ?
Non, il y a des initiatives alors de publication, mais il y a des initiatives aussi, par exemple, de compagnonnage d'auteurs en Afrique qui naissent, il y a un développement qui se fait, et ça, je trouve ça très très important. Nous souhaitons collaborer avec des éditeurs africains, par exemple, ne fût-ce que parce que les livres sont difficiles à diffuser quand ils sont édités, imprimés à un prix européen.
Découvrir des auteurs a toujours été votre ligne éditoriale, Émile Lanceman, et finalement, qu'importe s'il y avait un projet de mise en scène ou pas, et à ce titre-là, il faut dire que vous avez pris des risques. Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui publient du théâtre. Quand il y a une production, on va vendre le livre à la sortie du spectacle et on vend le nombre nécessaire de livres. Ça n'a jamais été votre cas.
Non, mais je n'ai pas la prétention de découvrir des auteurs. Je participe à la découverte des auteurs. Il y a tout un faisceau, il n'y a pas que les éditeurs, il y a des associations, il y a des festivals, il y a des individus qui se battent pour ça. Mais oui, effectivement, après, je n'ai pas l'impression que je prends plus de risques que ceux qui publient des textes qui sont joués, dans la mesure où, pour voir émerger de nouveaux auteurs, avoir la chance d'avoir un prix Nobel, par exemple, comme Gao, il faut évidemment s'attaquer à des auteurs qui et faire émerger des auteurs qui ne sont pas connus à l'époque. Donc, je ne pense pas que ce soit plus difficile que d'aller vers le succès.
Métier éditeur, deux personnalités ont témoigné de votre passion. Daniel Girard, qui fut directeur du Centre des Écritures Contemporaines à la Chartreuse, et Monique Blin, qui dirigea dans les années 90 le Festival de Limoges.
Je trouve extraordinaire qu'il ait cet appétit, cette découverte, ce besoin de découvrir, et qu'il ne s'arrête pas au nec plus ultra de l'écriture. Il est très ouvert, très éclectique, et ça aussi c'est une façon de gérer une maison d'édition, moi qui m'intéresse.
Si on voit la vie que mène Émile, on peut l'appeler à 2h du matin, on le trouve en train de travailler. Il arrive à sortir des livres dans des délais incroyables qu'aucune maison d'édition ne ferait. Alors c'est cette passion d'Émile et c'est la perception qu'il a eue en se disant il faut accompagner ces auteurs, il faut les faire connaître. Il a fait un chemin extraordinaire pour tous ces auteurs et il n'y a rien de plus beau pour un auteur que de tenir son ouvrage en main.
Émile Lanceman, est-ce que la passion rend riche quand on est éditeur et qu'on a fait ce choix d'être éditeur?
Tout dépend quel est le critère de la richesse. Si c'est l'argent, non. Si c'est les contacts humains, les rencontres, les grandes joies, oui, ça rend riche. Non, disons que moi, je suis bénévole depuis 30 ans. J'ai d'autres fonctions dans des domaines un peu parallèles, ce qui était évidemment tout à fait intéressant. Mais je suis bénévole et je subventionne la maison d'édition, comme le faisait mon épouse de son vivant, mais je pense que c'est un projet de vie. C'est même plus une passion, c'est un projet de vie. Moi, je pense que le jour où j'arrêterai, j'aurai plus beaucoup de désir de vivre, parce que ça fait partie de mon statut personnel, quelque part.
450 auteurs publiés. Bien évidemment, on ne peut pas faire l'inventaire et parler de chacun, mais il faut quand même dire quelques mots de Gao Xingyang. Pour donner aussi la dimension francophone de votre maison d'édition, il n'y avait pas que des auteurs belges, il n'y avait pas que des auteurs congolais, camerounais, guinéens, il y avait aussi des chinois, qui est quand même pas le pays le plus connu pour la francophonie.
Non, et tout le monde dit quel mérite tu as eu de le publier. Ben, j'avoue franchement devant ce micro que j'ai refusé Gao Xingyang d'abord, et puis c'est après l'avoir rencontré là avec Alain Timard notamment, bien connu à Avignon, que finalement on a décidé de publier son premier texte qui était mal traduit, qu'il a fallu retravailler avec lui, et puis ça a été un apprivoisement réciproque d'abord, je pense, mais aussi progressif, qu'on a mieux compris quelle était sa théorie sur le théâtre, des triplements du personnage. Enfin, bon. Et donc, effectivement, j'ai publié Gao en 91 et il a eu le prix Nobel en 2000. Donc, j'étais, par le hasard, des, je pense, aussi peut-être par défi, le premier en Occident à le publier, en fait.
Vous aimez travailler avec les auteurs ? Vous êtes très proche d'eux. Est-ce qu'il y a, vous avez fait beaucoup de séminaires, notamment en Afrique, là je repars vers l'Afrique, est-ce qu'il y a une méthode Lanzmann ?
Non, pas du tout, ou sinon c'est le dialogue. C'est-à-dire, moi je suis pas auteur, donc je n'ai pas à imposer un style, j'ai pas envie d'écrire les pièces à la place des auteurs. Donc s'il y a une méthode, admettons, appelons-la comme ça, c'est vraiment de chercher les cohérences de l'auteur, de l'obliger à s'exprimer là-dessus, et puis de trouver ses incohérences par rapport à son propre projet. C'est la manière dont on travaille le plus. Alors, c'est pas toujours dans la bonne humeur, parce que ça peut aussi amener des difficultés. C'est pourquoi pose problème aux auteurs parfois, qui ont envie de dire, mais laisse-moi m'exprimer, je suis un poète. Et puis, voilà. Et puis petit à petit, avec certains, on s'apprivoise et c'est beaucoup plus facile après de travailler. Et puis, je pense qu'on s'apporte mutuellement des choses.
Mais ils entendent ce que vous leur dites, les auteurs, ou ça dépend ?
Au début, quand je travaille avec un auteur qui écrit pour le jeune public, il dit « Oui, mais tu veux travailler avec moi parce que c'est du jeune public. Un Africain parce que je suis Africain. Un Belge parce que... » voilà. Non, je pense qu'au départ, il y a toujours la crainte d'être violé, quelque part, d'être désapproprié de son œuvre. Et puis, une fois que ce cap est passé, oui, les auteurs sont très attentifs, parfois même trop. Moi, je dis « Mais résistez !» parce que je n'ai pas une science infuse. Moi, donc, ce que je préfère, c'est ceux qui disent « Bon, ok, on a bien entendu, maintenant on va retourner chez nous, on va réagir et te faire des propositions. » Kulsi Lamko, par exemple, a été un auteur qui réagit, c'est très 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 bien comme ça et dont j'étais très proche.
Donc auteur-éditeur, c'est un pas de deux en fait.
Oui, c'est un bout de chemin qu'on fait ensemble, tout à fait, et puis ce bout de chemin peut s'épuiser à un moment donné parce qu'il y a d'autres qui arrivent sur le même chemin et puis qu'on suit, mais oui, c'est un partage, je pense.
30 ans, c'est déjà pas mal pour une maison d'édition, surtout une maison d'édition théâtrale qui n'est pas forcément la plus doté, c'est même souvent un peu le parent pauvre de l'édition. Est-ce que vous avez des regrets, Émile Lanzmann ?
Un seul regret, c'est de ne pas avoir pu former quelqu'un pour assurer la pérennisation de la partie créative de la maison d'édition.
Il est encore temps.
Oui, mais comme je suis bénévole, cette personne est en droit de revendiquer un salaire, et donc j'ai fait des démarches pour essayer d'obtenir ce salaire en France, en francophonie. Les seuls qui ont marché, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc il m'a donné la moitié d'un salaire, mais là, je reste orphelin de cette deuxième moitié qui va sans doute m'empêcher de faire un travail d'accompagnement à moyen terme avec quelqu'un que je pourrais former et puis lâcher dans la nature pour me remplacer.
Pourtant, c'est indispensable, cette maison. Elle est devenue indispensable, cette maison d'édition. C'est un patrimoine.
Oui, je suis heureux de l'entendre, mais disons que quand même, j'ai pérennisé tout ce qui existe. Donc ça, je ne voulais pas, comme certains éditeurs, que la maison meure avec moi. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui gère cette maison et qui est capable tout à fait, pour les 1250 livres qui sont publiés, d'assurer le suivi, les rééditions, tout ce qu'on veut. Donc on parle bien ici de la partie créative.
Et donc de l'avenir.
De l'avenir. Et donc là, j'irai jusqu'au moment où je me sentirai capable de le faire intellectuellement et affectivement aussi.
Pour la 100e du Festival d'Avignon. Émile Lanzmann, ici à Avignon, nous allons faire un pont. La première émission de Vive Voix était à Erevan pour le sommet de la francophonie et nous allons nous quitter pour la dernière émission de la saison en retournant en Arménie grâce à notre correspondant Étienne Bouche. Bonjour.
Bonjour Pascal.
La francophonie en Arménie, 10 mois après le sommet, est-ce que c'est toujours d'actualité ?
Alors oui, c'est toujours d'actualité et aujourd'hui je vous emmène à Massis, une petite commune agricole proche de la frontière avec la Turquie. Il y a quelques jours, Massis inaugurait en présence du Premier ministre Nicole Pachinian son boulevard de la francophonie, une longue promenade fleurie que j'ai parcourue avec Lilith Adibekian à l'origine du projet.
Nous avons essayé au maximum d'instaurer un esprit français À part avoir fait une zone assez verte avec des fleurs, des arbres, etc., nous avons aussi fait des bancs avec différents personnages que nous considérons sont importants aussi pour l'Arménie, mais aussi pour la France. Par exemple, nous avons un banc qui s'appelle Bonaparte. Nous avons un banc Édith Piaf, c'est un classique pour nous. Charles Aznavour, c'est aussi un classique. Tout Arménien qui se respecte connaît Édith Piaf et Charles Aznavour. Nous avons essayé de permettre aux gens de s'inculquer parce qu'il y a des explications où ils peuvent lire la biographie de ces personnages, mais aussi de passer du temps, juste de se relaxer et d'entendre le chant des oiseaux. Vous les entendez, non ?
Oui, j'entends surtout que votre interlocutrice parle très bien français, Étienne.
Oui, Lili Tadibekian est l'incarnation de cette élite arménienne de la diaspora. Elle est polyglotte, a fait ses études dans une école de commerce parisienne, a vécu en Belgique et au Luxembourg. Cette femme d'affaires vit à Moscou où elle dirige des centres commerciaux abritant des enseignes de luxe. Elle travaille en collaboration avec son père, Gagi Tadibekian, qui est à la tête de cet important groupe immobilier. Ensemble, ils ont fondé en 2015 une organisation de bienfaisance dont le principal objectif est de financer des projets éducatifs et culturels en Arménie, en particulier à Massis.
Massis est une ville très symbolique pour tout Arménien, car d'ici, on voit toujours pleinement la ville de Yerevan. Et sur la droite, on voit toujours, ou presque, le mont Ararat. Nos origines proviennent d'ici, mes arrière-grands-parents vivaient ici, cultiver des vignobles que nous avons préservés presque 100 ans plus tard. Et aujourd'hui, nos enfants courent au milieu de nos vignobles, donc pour nous, c'est très emblématique et important. On n'oublie pas que nous sommes arméniens, même si nous vivons ailleurs et nous travaillons dans un autre pays. L'Arménie, pour nous, reste notre source.
Alors, au-delà de ce boulevard de la francophonie, la fondation Adibekian a pour ambition de faire de Massis une place forte du français en Arménie afin d'envisager à l'avenir des programmes d'échange. Je vous propose d'écouter Alex Bortolan, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France.
À la rentrée prochaine, à l'initiative de la fondation Adibekian, une des 6 écoles de cette commune va se doter d'un programme de français renforcé. Donc en fait, si vous voulez, c'est du français approfondi dès la 2e classe d'élémentaire. Nous avons ouvert des classes dans 10 écoles du pays. Et donc ici à Massis, ça sera la 11e. Et effectivement, à ce stade, notre rôle, c'est d'appuyer la demande de la famille Adibekian auprès du ministère de l'Éducation, qui a accueilli très favorablement ce projet.
Donc l'État s'implique dans cette politique francophone, Étienne Bouche, ou ce sont surtout des initiatives privées en Arménie ?
Alors pour le moment, ce qu'on observe, c'est l'importance des initiatives privées qui sont généralement portées par la diaspora, car l'État se montre peu impliqué, d'autant plus que, vous le savez, le pays est en pleine transition politique. Les projets éducatifs ne sont pas prioritaires et à l'échelle locale, il faut faire face à des lourdeurs administratives souvent entachées de corruption.
Mais vous me disiez que le Premier ministre était présent pour l'inauguration de ce boulevard de la francophonie.
Exactement, et sa présence a été très négociée, l'objectif étant d'impliquer l'État pour accélérer les démarches, accélérer notamment la construction à Massis d'un centre des technologies créatives, un TUMO comme on les appelle en Arménie. Il y en a déjà 4 dans le pays, le plus important étant à Erevan. Là aussi, il s'agit d'un projet porté par des Arméniens de la diaspora. Les TUMO offrent aux jeunes de 12 à 18 ans la possibilité de se former gratuitement aux nouvelles technologies. Et pour une commune comme Massis, l'apparition d'un centre de ce type sera bien sûr très importante et répondra aussi à l'ambition de faire de Massis une ville pilote de la francophonie, car il est en effet prévu que tous les programmes soient proposés en français.
Merci Étienne Bouche.
Merci Pascal.
Et il faut dire que ces centres TUMO sont un tel succès qu'ils ont été exportés à Paris. Émile Lanceman, pour vous, la francophonie, est-ce que c'est une réalité aussi tangible, vivante ? Parce qu'en France, on a l'impression que c'est un mot un peu creux. Il faut le dire.
Si on met un S à francophonie, oui. Je pense que les francophonies sont quelque chose qu'on peut mesurer sur le terrain, qu'on peut rencontrer. Moi, j'ai des anecdotes dans des pays improbables, comme Djibouti, par exemple. J'étais à Addis Abeba, dans une toute petite ville là-bas, et puis je me suis rendu compte que les jeunes apprenaient le français de manière remarquable, parlaient français, et puis ils savaient pas à quoi ça servait. On a commencé à leur raconter des histoires et tout, ils se sont rendus compte que c'était une langue qui pouvait les faire voyager dans leur tête et même physiquement. Voilà, pour moi, ça, c'est important. Mais si on prend la francophonie au sens politique du terme, là, je suis un peu moins optimiste.
Merci beaucoup Émile Lanceman et joyeux anniversaire. 30 ans, je trouve que c'est le bel âge. De vive voix dernière avec Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation et Philippe Nadel à la technique. Dès la semaine prochaine, nous vous proposerons des rediffusions et tous les dimanches à 10h10, temps universel. Rendez-vous avec Ça va le monde, le cycle de lecture de RFI que nous avons enregistré ici à Avignon. Le tout à retrouver sur RFI.fr et la page Facebook de l'émission, bien évidemment. Merci à tous, merci à l'équipe du festival, à l'Hôtel d'Europe qui nous a accueillis pendant toute la durée. Bel été à toutes et à tous.